Rémi Houdou, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de l'Association des maires ruraux dans les Hautes-Alpes, maire de Lettré. Vous avez tenu le week-end dernier l'Assemblée générale de l'Association des maires ruraux. On entend beaucoup les maires, que ce soit dans les territoires ruraux, que ce soit dans les agglomérations, taper du poing sur la table pour demander plus à l'État. Mais est-ce que l'État peut tout? Est-ce que l'État doit tout?
Ce que doit l'État aux communes rurales, c'est l'équité. Les points qui sont ressortis lors de cette Assemblée générale, c'est d'une part que actuellement il n'est pas acceptable qu'un urbain vaille 3 ruraux en termes de dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire que l'État donne par habitant plus d'argent à une commune rurale qu'à une commune urbaine, premier point. Et deuxième point, ce que l'État nous doit, c'est la liberté. C'est la liberté de s'organiser au niveau local. Le point qui a été central, et c'est des priorités qui sont le plus remontées dans le questionnaire qu'on a fait passer aux maires, c'est le fait de laisser la liberté des territoires de s'organiser entre communes et intercommunalités notamment.
Ça ne s'est pas arrangé au fil des ans. Il y a eu un ministre chargé de la ruralité qui était haut alpin, Joël Giraud, lui-même le disait. En effet, il faut revoir ces dotations. Elles ont été revues. Normalement, il y avait plus d'équité.
Non, la DGF, de ce que j'ai compris, va être abondée de 320 millions dans le projet de loi de finances 2023. On attend de voir comment cette DGF va être répartie. Ce qu'on attend aussi de voir, c'est que nos demandes sur, par exemple, la compétence eau puissent être enfin entendues. Ça fait maintenant 2 ans qu'on se bat avec la communauté d'agglomération pour dire « laissez-nous organiser notre compétence eau comme on l'entend ». Ça marche très très mal. Le maire de la Fraissinous s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet.
L'agglomération Gap-Talard-du-Rance.
Voilà. Ses entreprises qui interviennent parce qu'il y a un conflit avec la direction départementale des finances publiques, pour une question toute bête. Il a les fonds. La préfecture a donné son accord, mais il y a encore des blocages parce que la loi a été très mal organisée. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir s'organiser, nous, au niveau local. On le voit du reste, l'intercommunalité, ça se passait très bien lorsque c'était sur la base du volontariat. Lorsque l'État ne mettait aucune obligation, les communes s'organisaient entre elles, montaient des projets entre elles, arrivaient à s'entendre, même s'il y avait des divergences politiques ou personnelles sur un territoire, on arrivait à s'entendre. Depuis que l'État a imposé, ça ne marche plus.
Que pensez-vous justement de Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a fondé son propre parti, et qui le disait d'ailleurs sur Alpe 1 vendredi, pourquoi on arrive à un consensus local, c'est-à-dire des élus qui arrivent à voter à 90% des projets, des budgets, et quand on arrive dans des régions, dans des départements, même parfois, ou au niveau national, il n'y a plus de consensus?
Alors, je pense que la question des différences politiques, des différents partis politiques, est beaucoup plus prégnante au niveau national. Et donc, des fois, on peut avoir des oppositions de façade, qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, qui ne donnent pas en ce moment une très bonne image de la démocratie représentative. Au niveau local, on est beaucoup plus dans le concret, on est beaucoup plus dans le service, et on est beaucoup plus proche de nos concitoyens. Donc, si nos concitoyens veulent, entre guillemets, nous engueuler, ils savent où nous trouver. Et donc, ça nous oblige à des résultats. Et pour avoir les résultats, il faut qu'on puisse travailler ensemble. On n'a pas de temps à perdre dans des oppositions de façade.
La flambée des prix de l'énergie, Daniel Spagnol, président de l'Association des maires dans les Alpes-de-Provence, constatait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de communes qui sont en état déplorable au niveau des finances. Les communes rurales, très rurales, sont impactées également.
Alors on est tous impactés, on va tous subir l'augmentation des prix de l'énergie, ce qui va avoir des conséquences importantes parce qu'en France, 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales. Si on a moins de recettes, si on a plus de dépenses de fonctionnement, ça diminue notre capacité d'autofinancement des investissements. Donc on va pouvoir beaucoup moins investir. Sachant qu'en plus, lorsqu'une commune a 1 euro d'épargne, généralement, grâce aux subventions, ça équivaut à 4 euros
d'investissement
public. Donc, vous voyez bien qu'en perdant, pour chaque euro qu'on perdra dû à des dépenses d'énergie supplémentaire, ça va énormément diminuer l'investissement public.
Et je vous repose cette question, que peut faire l'État? Parce que tout semble se régler au niveau européen aujourd'hui.
L'État, il doit d'abord, avant de demander des moyens, nous, c'est pas ce qu'on demandait en priorité à l'Association des maires ruraux, c'est de nous laisser nous organiser. Le fait, par exemple, de cette compétence eau que l'on perd, le fait de transférer la taxe d'aménagement qui est actuellement perçue par les communes à l'intercommunalité au 1er janvier 2023, c'est une chose qui n'est même pas demandée d'ailleurs par les intercommunalités, ça va nous enlever des marges de manœuvre et pourtant nous laisser de la liberté, c'est quelque chose qui ne coûterait pas un euro à l'État et qui pourrait rapporter énormément aux communes parce qu'on aurait une bien meilleure organisation.
Cette taxe d'aménagement, ça concerne quoi exactement? Que les auditeurs comprennent.
La taxe d'aménagement, c'est ce que vous payez lorsque vous construisez une maison ou lorsque vous l'agrandissez ou lorsque vous construisez une piscine. Mmh. La commune a un taux qui est généralement fixé au taux plafond de 5%. Mmh. Et donc, lorsque vous construisez en une fois, vous payez une seule fois cette taxe d'aménagement. Actuellement, c'est la commune qui la perçoit. Ça permet de construire les routes pour desservir les terrains, les réseaux d'eau, l'électrification, qui est aussi à la charge des communes. Là, actuellement, le projet de loi de finances dit qu'une part de cette taxe d'aménagement doit être transférée de la commune à l'intercommunalité.
Pourquoi ?
Parce que l'État considérait que l'intercommunalité avait également des charges. C'était la raison officielle. Ce qu'on voit très bien, c'est que la Première ministre l'a exprimé. Maintenant, quand elle parle des territoires, elle parle des régions, des départements, des intercommunalités.
Et les communes
sont
les oubliées.
Où est passée la commune ? Ouais, complètement. Les communes, on sait très bien venir nous voir lorsqu'il y a des crises, comme pour les gilets jaunes. On demandait aux maires de faire des cahiers de doléances. Lorsqu'il y avait une crise du Covid, qui c'est qu'on est venu voir ? C'est les maires. Pour pouvoir distribuer les masques à la population, c'est les maires qui ont été en première ligne. Mais dès lors qu'après, il y a une réforme institutionnelle, là, les communes passent à la trappe. Mmh. Là, on a vu que la Première ministre parle de couple préfet-intercommunalité, de couple préfet-président de département. C'est un petit peu une instauration de la polygamie, hein, parce qu'à la base, on parlait surtout du couple préfet-maire. Et du coup, en oubliant le maire, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre les concitoyens à dos, parce que lorsqu'il y a une crise, c'est toujours le maire que les citoyens vont voir. Et si les citoyens ne peuvent plus avoir de réponse via le maire, la réponse qu'ils auront, ce sera dans les extrêmes.
Alors, moins de taxes d'aménagement, quelle marge de manœuvre demain pour les communes ?
Ben, je pense que l'objectif du gouvernement, c'est clairement de diminuer nos moyens pour qu'on ait plus de moyens d'investir et ensuite de dire, regardez, les communes n'arrivent plus à investir, transférons encore des compétences à l'intercommunalité.
Mais qu'est-ce qui vous restera du coup ?
L'état civil et la gestion des cimetières. Et l'organisation des élections. En gros, un maire, c'est bien utile pour l'État parce qu'on tient les bureaux de vote. Ça fait par personne, lorsqu'on n'a qu'un seul bureau de vote dans une petite commune, deux personnes au moins, 10 heures par jour, 10 heures pour chaque dimanche. Imaginez si on devait payer un fonctionnaire, ou deux fonctionnaires du coup, 10 heures les dimanches. Premier point, là, les maires, les conseils municipaux le font bénévolement, c'est dans leurs indemnités. Le maire est en astreinte permanente lorsqu'il faut déneiger, lorsqu'il faut regarder s'il y a 2 heures du matin, il y a assez de neige pour faire passer le déneigeur. C'est le maire qui se lève, c'est compris dans ses indemnités, il ne reçoit pas plus d'argent pour ça. Lorsqu'il y a une fuite d'eau, pareil, le samedi à 18 heures. C'est le maire qui se déplace. Si on doit à chaque fois remplacer le maire par un fonctionnaire avec une astreinte, ça coûtera beaucoup plus cher.
Donc vous faites une mission de service public qui n'est pas reconnue par l'État.
Qui n'est absolument pas reconnue par l'État, mais on dirait que l'État veut en fait nous laisser tout ce qui pourrait relever du travail d'un fonctionnaire. L'État civil, effectivement, ça peut être fait par un fonctionnaire. La tenue des élections, ça peut être fait par un fonctionnaire. Il n'y a pas d'enjeu majeur, il n'y a pas de politique publique liée à ces compétences-là. Mais il veut au contraire tout ce qui est en rapport avec le développement d'un territoire, via l'urbanisme, via la compétence eau, via la compétence voirie également. Petit à petit, l'État veut nous enlever les moyens pour que ces compétences soient transférées à la communauté de communes ou d'agglomération.
Vous ne vous sentez pas entendu aujourd'hui par l'État ?
Non, mais je pense que...
Et même pas défendu par les autres strates, hein. Je parle des départements, je parle des intercommunalités. Est-ce que vous vous sentez entendu et défendu ?
Alors, il faudra que, le moment venu, les autres strates nous défendent, comme les communes ont pu défendre les départements à un moment où ils étaient très menacés. Lorsque, notamment, il y avait la question du conseiller territorial, oui. Les communes ont pris, pour une grande majorité d'entre elles, des motions pour s'opposer au conseiller territorial. Elles n'étaient pas concernées par le conseiller territorial. Pourtant, il faut qu'il y ait une solidarité entre les trois échelons qui ont valeur constitutionnelle, que sont la région, le département et la commune, c'est pas en opposition à l'intercommunalité. Tout le monde est favorable à l'intercommunalité. Il y a des choses qui ne pourraient pas être portées par la commune. Le ramassage des ordures ménagères, ça aurait aucun sens que ce soit réalisé à l'échelle d'une commune. Il faut que ce soit fait à l'échelle d'un bassin de vie. Pour autant, il y a encore des compétences qui seront beaucoup mieux exercées, et c'est le cas de l'eau, par la commune que par l'intercommunalité.
Une question par rapport à Gap Tallard-Durance. Aujourd'hui, comment se passe la communication, les prises de décision, notamment avec le président, Roger Didier ? On a l'impression, et c'est ce que dénonce l'opposition, qu'il y a des décisions qui sont imposées, qui ne seront plus discutées.
Alors, il y a une conférence des maires qui se réunit avant chaque conseil communautaire et qui débat des enjeux stratégiques. Donc, effectivement, l'opposition ne siège pas à la conférence des maires par définition, vu qu'ils ne sont pas maires. Donc, effectivement, ils ont cette impression que les décisions sont prises par une seule personne. On a quand même des espaces de débat. Ça ne veut pas dire que chaque maire a le même poids au sein de la communauté d'agglomération. C'est vrai que le maire de Gap a un poids plus important parce que sa commune représente 80% des habitants. Mais dire que les décisions sont prises de façon dictatoriale, non, ce serait un peu exagéré.
Merci beaucoup Rémi Oudou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes le vice-président de l'Association des maires ruraux dans les Hautes-Alpes, maire de Lettré.
Merci à vous.